Radio Okapi.
Bonjour à tous et à toutes, l'heure est venue de faire le point sur l'essentiel de l'actualité. Bienvenue dans votre journal sur Radio Okapi présenté par Gisèle Cage. Sud Kivu, pluie torrentielle meurtrière des villages dévastés à Calais et Bunyakiri. Au moins 11 morts en quelques jours, des maisons écroulées, des routes coupées et des centaines de familles sans abri. La société civile lance un appel urgent à l'aide humanitaire face à cette catastrophe récurrente. Ituri, les FARDC et la MONUSCO renforcent leur sécurité après une série d'attaques meurtrières attribuées aux miliciens de la CODECO et du CRP dans les territoires de Djougou. À Goma, les billets usés compliquent la vie quotidienne. Le professeur Boutou Balingene, enseignant à l'université de Goma, revient sur les conséquences de la circulation des billets abîmés et appelle les autorités à agir. Il sera l'invité de notre journal. Pour ouvrir ce journal, direction le sud Kivu, où les intempéries font à nouveau parler d'elles. Le bilan des pluies diluviennes qui se sont abattues dans la nuit de dimanche à lundi sur les villages de Bunyakiri dans le territoire de Calais s'alourdit. Le nombre de victimes est passé de 8 à 11 décès selon les dernières informations. À ces pertes humaines s'ajoutent de nombreux dégâts matériels, la grande vulnérabilité de cette zone face aux catastrophes naturelles. Nelly Timbonera nous fait le point.
Selon les chiffres présentés par la société civile à l'issue d'une évaluation réalisée au lendemain du drame, les corps des victimes ont été retrouvés à différents endroits. Il s'agit de deux corps à Boutou Tachabondo, quatre à Kichanga Post, deux à Kambegete Kimbaseke dans le groupement des Kalima et trois à Maïbanon en chefferie des Bouloho. À côté de ces lourds bilans humains, plusieurs blessés ont également été signalés. Leur prise en charge médicale est assurée par des structures sanitaires, les centres de santé Chinganda et l'hôpital général de Bunyakiri, indique la société civile. Par ailleurs, plusieurs maisons de la zone se retrouvent sans toiture car le vent violent accompagnant cette pluie ne les a pas épargnés. Des cas de bétail tués par les intempéries ainsi que des champs dévastés figurent également parmi les dégâts. Sur le plan des infrastructures, la route nationale numéro 3 n'a pas été épargnée par les conséquences de cette pluie. Sur les tronçons Mitihombo, des glissements de terrain ont été signalés, rendant difficile l'accès au centre des négoces de Bunyakiri. Ce mardi, les acteurs communautaires locaux ont initié des travaux communautaires d'urgence afin de trouver une solution temporaire et tenter de dégager les modes des terres qui obstruent ces tronçons routiers. Bunyakiri est un carrefour important et un centre de négoce du territoire des Kalehe. Il est reconnu pour sa production agricole, indispensable pour l'approvisionnement de la ville de Bukavu. La localité constitue également une voie stratégique reliant Bukavu à Kisangani.
Autre fait marquant de ce jour, Kinshasa se prépare à affronter la saison des pluies. Les autorités de la capitale ont décidé de passer à l'action. Dans plusieurs quartiers, les travaux de curage des caniveaux battent leur plein. Objectif, éviter les inondations qui, chaque année, causent des dégâts considérables. Ces caniveaux, souvent transformés en dépotoirs par les habitants, débordent à la moindre pluie. Mais cette fois, les services de la ville prennent les devants. Une initiative saluée par de nombreux Kinois, heureux de voir les choses bouger avant que le premier goutte ne tombe. Li Kanzao nous emmène sur le terrain.
Ngalema, tout comme à Mongafula, les travaux de curage des caniveaux sont visibles sur certaines artères. Ngalema, c'est notamment sur l'avenue Swala qui va des pompages à DGC et de là, ils se poursuivent sur la route des Matadi jusqu'à Barré. Ces mécaniciens de moto trouvés à Barré louent cette initiative tout en émettant une proposition.
C'est bien de tirer, mais de ce côté-ci, la route des Matadi elle-même et ses caniveaux sont étroits. Quand il pleut, l'eau emporte nos motos. Je demande au gouvernement que ces travaux soient réguliers afin que l'eau puisse s'écouler calmement.
Peter Kalambayi, usager de cette route, approuve également mais dénonce un mal.
D'habitude, nous voyons quand il retire les histoires comme ça, il le laisse après la pluie. Allez, ça doit rentrer là où il était.
À Mongafula, c'est entre autres à l'entrée de la cité Mama Mobutu que le curage s'effectue. Partout où nous sommes passés, la population a formulé deux demandes. L'évacuation rapide des déchets après curage et aussi la régularité de ce genre de travaux.
Et puis, dans ce journal également, dans la province du Haut-Lomami, la circulation est paralysée depuis plusieurs jours à l'entrée de la ville de Kamina sur la route nationale numéro 1. En cause, l'état défectueux du pont Lovoy jeté sur la rivière du même nom qui ne peut plus supporter de lourdes charges. Face au risque d'effondrement, le ministère provincial des infrastructures a suspendu la circulation de gros engins sur ces tronçons. Des travaux sont en cours pour aménager une route de déviation afin de rétablir le trafic. Le point avec Paulin Munanga.
Le pont Lovoy est situé entre les villages Luegi et Lungue sur la nationale numéro 1. D'après le coordonnateur de la société civile de Kamina, des chauffeurs en provenance de la région du Kasai ont garé leur camion à l'entrée de la ville de Kamina. Deta Kalenga souligne qu'une file de véhicules est observée également près de l'Institut supérieur pédagogique de Kamina. Il affirme que le plus grand nombre de camions chargés de marchandises provient de Lubumbashi ou Kolwezi. Il s'agit de plusieurs dizaines de gros camions qui sont bloqués de part et d'autre du pont Lovoy à environ 20 km de Kamina. Certains chauffeurs et voyageurs passent la nuit à la belle étoile, renseigne des sources locales. Face à cette situation, la société civile locale craint une pénurie de certaines denrées sur les marchés locaux de Kamina. Le ministre provincial des infrastructures du Haut-Lomami indique que les travaux pour la réhabilitation d'une route de déviation sont en cours. Venance Mutombo précise que ce pont métallique qui est défectueux sera remplacé par celui en béton armé. D'après la Guardia Magazine qui cite des sources officielle de l'office des routes, le pont Lovoy date des années 1950. Lubumbashi, Paulin Munanga, Radio Okapi.
Kasai Oriental, c'est parti depuis lundi dans le secteur de Nsangu, territoire de Katanda, pour le coup d'envoi de la campagne agricole saison A. La cérémonie a été présidée par le gouverneur intérimaire de la province, Dr Augustin Kayembe, qui ambitionne de voir entre 500 et 1000 hectares de cultures vivrières exploitées cette saison. Il a promis un appui concret créé aux producteurs locaux pour booster la production tout en soulignant les défis rencontrés lors de la précédente campagne. Manque de coordination, lenteur dans la mise en œuvre des actions et faible accompagnement. En signe d'engagement, le gouverneur a remis symboliquement des intrants agricoles aux chefs traditionnels et à quelques paysans. Tension à Nitori, l'armée et la MONUSCO en alerte. Depuis samedi, au moins 15 personnes, dont 6 miliciens, ont perdu la vie dans les territoires de Djougou. Ces décès sont survenus lors des opérations militaires menées par les FRDC et les attaques perpétrées par des groupes armés face à la menace persistante des miliciens de la CODECO et du CRP. Les forces de la MONUSCO sont en alerte maximale à Djaïbou. Des échanges de tirs violents ont opposé les casques bleus à un groupe d'assaillants de la CODECO dans une opération visant à protéger les civils. Lievin Mbwinga nous livre les détails dans cet élément.
Les atrocités des groupes armés, notamment la CODECO et la Convention pour la Révolution Populaire de Thomas Lubanga, continuent de menacer la quiétude des populations Nitori. Hier lundi, une attaque de la milice CODECO a fait 3 morts et 1 blessé à Liko, dans le territoire de Djougou. Des hommes armés identifiés à la CRP ont riposté avant que les FRDC n'interviennent pour rétablir l'autorité de l'État. Selon des sources locales, 6 miliciens ont été neutralisés lors de ces affrontements. Toujours lundi, 2 camions sont tombé dans une embuscade tendue par des présumés miliciens de la CODECO à Kpadolé, sur la route nationale numéro 27. Les assaillants ont dépouillé des membres d'équipage de téléphones, d'argent et d'autres biens. Le week-end dernier, de violents échanges de tirs ont opposé les forces de la MONUSCO aux miliciens de la CODECO après leur incursion dans le village de Ndjaïmbou. Bilan 6 morts et 4 blessés. Ces combats, qui ont duré près de 4 heures, ont permis de limiter les dégâts et de protéger les civils.
Autre sujet à suivre dans ce journal, au Maniema, l'Union nationale de la presse congolaise, section locale, plaide pour une adaptation du couvre-feu en vigueur au Maniema afin de permettre aux professionnels des médias de travailler dans des meilleures conditions. Selon le président de la corporation, Grâce Mbambi Wambambi, le couvre-feu instauré de 20h30 à 5h du matin pénalise les rédactions dont les programmes commencent très tôt et se terminent tard dans la soirée. Il estime qu'un assouplissement serait une mesure de bon sens pour permettre aux journalistes de remplir leur mission. Il est au micro de Florence Kizalunga.
Comme vous le savez, depuis le 14 août de cette année, le gouvernement provincial a pris une mesure instaurant le couvre-feu, donc chaque jour, de 20h30 à 5h juste. Depuis l'entrée en vigueur de ce couvre-feu, de nombreux journalistes sont contraints de terminer leur travail tôt et plusieurs médias, même de Kindu, ont dit raccourcir leur programme à cause justement de ce couvre-feu. Cela prive la population de la ville de Kindu de son droit fondamental, celui d'accès à l'information, pourtant garantie par notre constitution à son article 24. Et donc, face à cette situation, l'UNPC demande aux autorités de la province du Maniema d'assouplir cette mesure aux professionnels des médias qui commencent leur travail avant 5h et ceux qui terminent leur travail après 20h30. Et l'UNPC Maniema appelle également tous les professionnels des médias de veiller au strict respect de notre code d'éthique et de déontologie des journalistes congolais en cette période un peu particulière dans la ville de Kindu, mais également d'avoir toujours sa carte de presse en soi. Cela va permettre aux agents de l'ordre d'identifier les journalistes sans problème.
Reddition des comptes 2024, cap sur Kananga. Une délégation du ministère des Finances est en mission dans le chef-lieu du Kasaï central. Objectif, collecter les données nécessaires à la préparation de la loi portant réduction des redditions de comptes pour l'exercice 2024. Cette démarche s'inscrit dans le cadre du renforcement de la redevabilité dans la gestion des finances publiques. Après une rencontre avec le gouverneur de province, le chef des missions a précisé que ce contrôle concernera tous les services étatiques. Fidèle Babaka nous en parle dans cet extrait sélectionné par François Kadima.
Notre mission de la reddition des comptes a pour objectif de présenter la situation des fonds récits du pouvoir central au niveau du Parlement en recettes et en dépenses et arrêter les comptes de manière définitive. L'autorité budgétaire qui est le Parlement vous a donné mandat de mobiliser les ressources et d'exécuter les fonds publics. Vous l'avez fait, vous devriez rendre compte. Et à son tour, le Parlement établit les responsabilités. Et ces responsabilités dépendront des résultats que nous allons prononcer et envoyé au niveau de la hiérarchie.
Culture et innovation à Kinshasa, l'école nationale d'administration ENA a franchi une étape majeure. Elle vient de lancer sa toute première revue scientifique baptisée Inflexion, un ouvrage bilingue publié chez Académie Éditeur qui ambitionne de décrypter les grands enjeux administratifs, économiques et sociaux de la RDC. Le lancement officiel a eu lieu ce lundi dans la capitale sous le haut patronage du vice-premier ministre en charge de la fonction publique. Objectif affiché, améliorer les pratiques de gouvernance publique grâce à une réflexion académique rigoureuse. Blaise Dongala Mayanda nous en dit plus sur cette initiative.
La revue Inflexion, fruit d'un travail collaboratif entre professeurs et experts venus du monde entier, marque une étape importante dans l'évolution de l'administration publique en RDC. Le directeur général de l'École nationale d'administration considère la publication de ses premiers numéros comme un moment fondateur de l'histoire récente de l'administration congolaise. Il a fait savoir que cet ouvrage est conçu comme un espace d'intelligence collective, un lieu où se croisent les savoirs issus de la recherche et les interrogations d'une société en quête d'un service public plus efficace et plus proche des citoyens. Tombola Mouké.
Cette revue que nous voulons en carrefour entre la recherche académique, la recherche scientifique et la pratique administrative. En même temps, nous la voulons aux standards internationaux. Ça prolonge le bras de la réforme de l'administration publique.
De son côté, le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique salue cette initiative qui, selon lui, permet de concilier l'administration et la science.
Désormais, le temps est donné pour que l'administration publique en général et l'ENA en particulier soient dotées d'un cadre scientifique prestigieux.
Cette œuvre scientifique constitue un indicateur des réformes majeures en cours pour la transformation de l'administration congolaise à un levier de développement.
Sport, boxe à Goma. La boxeuse congolaise Daniela Muleketi se prépare activement pour son prochain combat prévu le samedi 30 août. Elle affrontera la tanzanienne Sabrina Mbwewe dans un duel très attendu dans la catégorie des super moyens, classée 11e au niveau mondial, 2e sur le continent africain et 1ère en RDC. Daniela Muleketi affiche une confiance sereine. Sa préparation qu'elle poursuit au gymnase Nyama Boxing avance à grands pas. Nous l'y avons rencontré, concentré et déterminé à défendre son rang. Alain Irung nous brosse le portrait de cette athlète prometteuse.
Âgé de 20 ans, environ 1m60, Daniela Muleketi a à son actif à ce jour 5 victoires et une défaite. Elle se réjouit de son évolution au sein de la boxe professionnelle, catégorie au sein de laquelle elle compte une expérience d'une année. Daniela.
Et ça fait déjà une année que j'ai commencé la boxe professionnelle, Anyama Boxing.
Vous avez déjà participé à des compétitions?
Ouais, 2. Donc défaite et j'ai réussi 1 en boxe professionnelle. Avec Charity la Kenyan, j'ai gagné.
Étant la seule boxeuse professionnelle à Goma, Daniela a dit fournir un effort particulier pour concilier son temps d'entraînement et ses responsabilités familiales.
Je gère. Il y a l'état des entraînements, il y a aussi l'état pour travailler à la maison.
Depuis le 11 août 2024, Daniela évolue sous l'encadrement du coach Gaël Assoumani, responsable de Nyama Boxing Promotion. Pour ce dernier, tout espoir demeure pour une bonne évolution de cette boxeuse congolaise.
Daniela, on avait commencé à la suivre depuis 2021. Elle est accordée à ce club de Volcan. Mais après, on avait découvert que c'était une fille qui avait beaucoup de potentiel. Pour l'instant, elle est très avancée, surtout les plats tactiques, techniques et même sur les classements, sur les plans mondiaux.
Lors du prochain combat prévu samedi 30 août à Goma, Daniela se mesurera à Sabrina Mbwewe de la Tanzanie.
Actualité internationale.
Le Conseil norvégien pour le réfugié NRC tire la sonnette d'alarme dans un rapport publié ce lundi 11 août intitulé « La maladie se propage en Somalie alors que le coupe budgétaire laisse 300 000 personnes sans eau potable ». Le document met en lumière une crise humanitaire majeure dans ce pays d'Afrique de l'Est. La majorité des personnes touchées vivent dans des camps, des déplacés ou des zones rurales isolées, principalement dans le sud du pays. En cause, une nouvelle sécheresse qui a asséché plus de 130 pluies selon l'ONU et une chute drastique des financements humanitaires, notamment américains. Le programme d'eau et d'assainissement ne sont financés qu'à hauteur de 12%, obligeant les agences à réduire leurs opérations de près de 75%. Conséquence directe, les prix de l'eau a presque doublé, atteignant 130 dollars pour 10 000 litres, un coût inabordable pour la plupart des familles. Résultat, elles se tournent vers des sources insalubres. Entre janvier et juillet, près de 6500 cas de choléra et de diarrhée sévère ont été recensés, dont 10 000 rien qu'en juillet. Pour Puntland, 800 000 personnes sont privées d'eau et 600 000 en Somaliland, région autoproclamée indépendante depuis 1991.
L'invité.
À Goma, la circulation des billets des banques en francs congolais souvent déchirés ou trop abîmés rend les transactions de tout le jour particulièrement pénibles pour les habitants. Beaucoup se retrouvent forcés d'accepter ce billet qu'ils ne peuvent ensuite ni utiliser ni échanger, entraînant de pertes financières. Le professeur Buto Balingene, enseignant à l'université de Goma, est lui aussi confronté à ce problème. Il partage son expérience et alerte sur les conséquences pour la population. Il appelle les autorités à agir pour une solution durable. Il est au micro de Rosalie Zawadi.
Professeur Buto Balingene, bonjour.
Bonjour madame.
La situation des billets usés à Goma, comment la vivez-vous?
Personnellement, j'en ai été victime. J'ai retiré de l'argent et quand je suis allé vérifier, j'ai trouvé qu'il y avait des billets qui sont impropres. Des billets fatigués. Quand moi-même je suis allé aussi les utiliser, on ne les a pas acceptés parce que c'était des billets fatigués. Par exemple, j'ai un billet de 20 000 francs que je ne sais pas utiliser parce que il est usé. Les coins, ce sont vraiment fatigués. La couleur n'est pas bonne, tellement que le billet était caché parmi les autres. Là, je n'ai pas pu savoir que c'était un billet fatigué. Mais quand je suis allé vérifier à la maison, j'ai trouvé que le billet ne pouvait servir à rien. C'est vraiment un problème que nous vivons dans nos transactions commerciales ici à Goma.
Qu'est-ce qui serait à la base de ces situations, d'avoir plus de billets abîmés dans la circulation à Goma?
Bon, ce n'est pas un secret. Depuis un temps, les banques ne fonctionnent pas ici à Goma. Et cela fait que les mêmes billets circulent, alors que dans la pratique, selon ce que nous savons, la banque remplace les mauvais billets par des billets qui sont conformes. Mais depuis un temps, cela ne se fait pas. La conséquence, nous sommes en train de la vivre, nous, la population. Quelqu'un peut être malade, il veut acheter des médicaments à la pharmacie. Quelqu'un va au marché, comme mes 20 000 francs là dont je vous parlais, je ne peux plus les utiliser parce que les gens ne peuvent pas les accepter. Alors, c'est un fait. Les banques ne fonctionnent pas et les billets sont les mêmes qui fonctionnent. Qui travaillent, alors ils sont fatigués, ils sont abîmés. Les conséquences, nous les vivons.
Et dans les échanges, quotidiennement, on remarque qu'il y a des malentendus entre les habitants par rapport à ces billets.
Mais justement, les malentendus ne peuvent pas manquer, comme ce motard-là. Il vous amène de Birere jusqu'à Ndosho. Et quand vous payez, vous lui donnez un billet qui n'est pas conforme. Vous n'avez pas un autre. C'est le conflit. Un autre élément réel. Nous avons des petits peuples qui n'ont pas beaucoup de moyens. Et comme par hasard, il peut se retrouver avec ce billet-là, abîmé, 10 000, 20 000. Il n'a que ça. Que faire? C'est-à-dire, il est condamné à souffrir. Cela, vraiment, c'est un élément sur lequel nous attirons l'attention des autorités pour qu'elles puissent voir comment trouver la solution. Par exemple, une maman qui est en train de vendre les légumes le soir, hein, et on lui donne un billet fatigué, très scotché, abîmé, peut-être à moitié coupé. Bon, quand elle va le découvrir le matin, elle l'amène chez quelqu'un, ce quelqu'un-là le refuse, elle ne peut que le garder. Mais un billet qui ne lui servira à rien, malheureusement, c'est toujours la souffrance qui est en train de s'augmenter.
Pour vous, quelle peut être la solution à ces problèmes qui touchent plusieurs personnes à Goma?
Bon, moi je ne peux m'adresser qu'aux autorités, que les autorités cherchent la solution. Nous sommes en train d'apprendre qu'il y a des négociations, et ce sont ces négociations-là peut-être qui pourront nous aider à trouver la solution. Sinon, nous n'avons pas intérêt à être divisés, à faire souffrir une partie d'un pays. Nous, en tant que population, nous demandons que les autorités, à tous les niveaux, puissent chercher la solution à ce problème-là. Les négociations en cours, nous espérons qu'elles vont nous aider à trouver la solution. Sinon, si ça continue comme ça, les victimes vont toujours se compter par milliers.
Professeur Boutoua Balingini, je rappelle que vous êtes enseignant d'université dans la ville de Goma. Merci.
Le professeur Boutoua a partagé son regard sur les difficultés liées à la circulation des billets usés à Goma et les impacts sur les quotidiens des habitants. Son appel à une solution durable interpelle les autorités sur la nécessité d'agir. C'est la fin de cette édition du journal sur Radio Okapi. À la mise en onde, Jean-Claude Nsiala. À la présentation, Gisèle Cage. Coordination, Lievin Bouinga. Supervision, Alain Rong Moussins. Vous avez été nombreux à nous suivre avec attention et fidélité et nous vous en remercions. Chaleureusement, l'actualité continue sur toutes nos plateformes numériques. Restez connectés pour ne rien manquer. Portez-vous bien et à très bientôt sur Radio Okapi.